France Culture.
L'heure du journal de la rédaction présenté par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Un objectif plus politique qu'économique, voilà comment il faut apprécier le plan d'action que va présenter cet après-midi François Bayrou pour faire 40 milliards d'économies l'année prochaine. Le chef du gouvernement a promis que tous les Français vont participer à cet effort budgétaire. Plusieurs centaines d'emplois bientôt créés chez Renault pour fabriquer des véhicules électriques dans le nord de la France. Les carnets de commandes le permettent désormais. Une application européenne pour contrôler l'âge des internautes. 5 pays de l'Union vont la tester, dont la France. De quoi satisfaire dans notre pays l'une des associations de protection de l'enfance. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans le sud de la Syrie, de violents combats ont eu lieu dans la ville druze de Souaïda. Les forces envoyées par Damas pour ramener le calme ont été prises à partie. Les Israéliens ont de leur côté bombardé plusieurs positions militaires dans la région. Enfin, nous reviendrons sur la volte-face de Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie et les zones d'ombre qui persistent ce matin, notamment s'agissant de cet ultimatum de 50 jours lancé à Vladimir Poutine. 40 milliards d'euros d'économies à réaliser l'année prochaine, c'est donc le mantra que le Premier ministre martèle depuis des semaines. François Bayrou lèvera le voile cet après-midi à partir de 16h sur le plan d'action qu'il veut mettre en place pour parvenir à ce résultat financier sans précédent. Il souhaite que tout le monde, ou presque, participe à cette réduction des déficits. En coulisses, depuis plusieurs jours, des pistes et des idées circulent. Les uns parlent d'année blanche, les autres d'une réforme de l'assurance chômage. Certains plaident pour mettre à contribution les retraités. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Olivier.
Au-delà de ce florilège de propositions, on peut légitimement s'interroger sur la méthode choisie par le gouvernement, celle de retenir un objectif chiffré. Objectif éminemment politique.
Oui, ce chiffre, c'est Bercy et Matignon qui l'ont fixé dès le mois d'avril dans la stratégie de dramatisation de cet Himalaya budgétaire, comme François Bayrou aime le qualifier. Il en a fait l'affaire de son mandat, sachant qu'elle pourrait bien lui coûter ce mandat en cas de motion de censure. Mais les 40 milliards n'apparaissent dans aucune recommandation de la Cour des comptes, des agences de notation ou bien de la Commission européenne. On nous explique, sans données détaillées à l'appui, qu'il s'agit d'une projection à partir d'un scénario de budget virtuel qui tiendrait compte de l'évolution naturelle du budget de l'État s'il restait sur sa trajectoire actuelle. Il s'agit donc bien de réduire la hausse des dépenses publiques de 40 milliards sur un an dans le but affiché de contenir le déficit public l'an prochain à 4,6% du PIB de la France contre 5,4% prévu cette année. Le souci, c'est que l'exécutif, qui enverra dans la journée au Parlement le tiré à part, la liste des plafonds de dépenses transmis à chaque ministère, n'a pas communiqué sur les données économétriques qui lui permettent d'arriver à cet objectif de 40 milliards. La principale inconnue étant la prévision de croissance de l'économie française sur laquelle tous ces calculs sont basés. De nombreux économistes craignent qu'une cure d'économie de 40 milliards avec une croissance très faible comme actuellement n'entraîne notre pays vers une possible récession. Or, François Bayrou cesse de le répéter. Selon lui, pour remettre la France sur les bons rails budgétaires, il faut avant tout que les Françaises et les Français travaillent plus, que la croissance reparte à la hausse. Manière aussi de justifier le fait qu'on ne touche pas, ou bien à la marge, aux aides publiques et aux exonérations dont bénéficient les entreprises.
Merci beaucoup Camille Magnard. Ce matin, sans attendre les propositions du gouvernement, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a prévenu que son mouvement déposerait une motion de censure à la rentrée. De son côté, Sophie Binet, la patronne de la CGT, dit ne pas comprendre pourquoi le Premier ministre ne va pas chercher l'argent là où il est, dans les poches, dit-elle, des actionnaires et des rentiers qui n'ont jamais été aussi riches. Sophie Binet plaide également pour que les entreprises qui reçoivent plus de 200 milliards d'euros d'aides publiques soient mises à contribution. Des prix qui augmentent de 2%, l'UFC Que Choisir pointe du doigt les tarifs des fournitures scolaires avant la prochaine rentrée des classes. Ils avaient pourtant légèrement baissé l'année dernière. L'association rappelle qu'en 2023, la hausse de 10% provoquée par la flambée des matières premières n'a jamais été complètement effacée pour les consommateurs. Elle invite les familles à profiter des promotions cet été pour éviter une facture qui pourrait grimper de 10% en moyenne au mois de septembre. À Douai, dans le nord de la France, le groupe Renault va embaucher plusieurs centaines de personnes pour augmenter la production des véhicules électriques. Dès l'automne prochain, le constructeur prévoit la mise en place pour 6 mois pour l'instant d'une équipe de nuit. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Olivier Denré.
Les carnets de commandes sont cette fois-ci manifestement bien remplis.
Oui, c'est surtout le carnet de commandes de la R5 électrique qui est plein. En effet, la Citadine connaît un grand succès avec des ventes en hausse grâce à un prix plus accessible à partir de 20 000 euros grâce au bonus écologique. L'embauche de ces 400 intérimaires doit donc permettre aux constructeurs de passer sur ces chaînes d'assemblage de 53 à 54 véhicules par heure. Se félicite Cyril Mézières, délégué central CFE-CGC, qui est le premier syndicat chez Renault.
Les R5 se portent même très bien, il y a une forte demande commerciale sur ce véhicule et donc on doit être en capacité de répondre à la demande. C'est pour ça que le site de Douai monte une demi-équipe pour compléter les productions.
Pour autant, la prudence reste de mise, car les gros modèles électriques produits à Douai, comme la Mégane et surtout le Scénic, qui sont des gros SUV, des gros 4x4 de ville électriques, n'arrivent pas encore vraiment à décoller. Or, Olivier, ce sont ces modèles qui sont très importants pour la marque, dans la mesure où ce sont eux qui procurent le plus de marge, des marges qui seront très importantes pour, à terme, pérenniser les 2400 postes du site de Douai.
Merci beaucoup, Hakim Kasmi. Les acteurs de l'énergie solaire décident de se regrouper pour résister, disent-ils, aux attaques. Qu'ils annoncent la création d'une nouvelle fédération, la FNES. Les statuts ont été symboliquement déposés le 21 juin dernier, le jour du solstice d'été. Toute la filière est représentée. Il s'agit de lutter contre les idées reçues et les oppositions idéologiques de plus en plus virulentes ces derniers mois. Une application pour vérifier l'âge des internautes présentée hier soir par la Commission de Bruxelles. Ce dispositif va être testé dans 5 pays européens, dont la France. À ce stade, il s'agit d'un prototype ajustable aux législations des pays qui acceptent donc de l'utiliser. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazet.
Il y a un premier projet déjà lancé, c'est celui du coffre-fort numérique européen. Il doit être disponible à partir de 2026 pour permettre à tous ceux qui le désirent de prouver leur identité, dater un document ou signer une demande. C'est la base technique sur laquelle cette application de vérification de l'âge est développée. Les deux pourront d'ailleurs être intégrés par la suite. Dans la pratique, l'utilisateur va télécharger l'application qui sera disponible dans son pays, puis présenter une preuve d'identité, par exemple un passeport qui sera scanné par l'application ou bien un lien préexistant avec un compte bancaire électronique. Après validation, l'application coupe le lien entre la preuve d'identité et l'utilisateur. Il ne reste plus qu'une date de naissance, même pas de nom. La priorité première, c'était la préservation de la vie privée. Lorsqu'un utilisateur demandera l'accès à un service en ligne, le fournisseur ne recevra rien d'autre que la certification que l'utilisateur a plus de 18 ans. Et le Danemark, qui exerce pour 6 mois la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UE, veut immédiatement lancer le chantier suivant, consulter toutes les capitales au sujet d'un âge minimum pour accéder aux réseaux sociaux.
Et il s'agit là d'une réponse à une demande pressante de Paris pour mieux contrôler donc l'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux, notamment pour Justine Atlan, la présidente de l'association e-Enfance. On est sur la bonne voie avec cette application.
D'abord parce que l'Europe a publié ce qu'on appelle des lignes directrices, qui sont un peu les décrets d'application en fait de la grande loi qui encadre les réseaux sociaux, qui vraiment change la responsabilité des réseaux sociaux. Donc c'est vrai que là, les lignes directrices qui ont été publiées sont très ambitieuses sur la protection des mineurs. Elles réaffirment qu'on ne peut pas traiter en ligne les mineurs comme les majeurs. Et donc quelque chose qui est très important, parce que ça fait 20 ans que c'est l'inverse, c'est qu'on ne peut pas proposer aux mineurs les mêmes outils, les mêmes fonctionnalités, les mêmes usages que les adultes. Aujourd'hui, finalement, les mineurs, ils ont le même TikTok, le même Instagram, le même Snapchat que les adultes. Et là, effectivement, ça change complètement tout. Parce qu'il y a plein de fonctionnalités dont les lignes directrices disent que c'est interdit maintenant de les proposer aux mineurs. On ne peut plus faire ça. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a enfin l'idée que la vérification d'âge, c'est vraiment la clé de voûte de la protection des mineurs. Jusqu'à présent, on était incapable de le faire. En tout cas, on ne le faisait pas. Maintenant, on va mettre en place un système qui va permettre d'isoler les adultes et les mineurs et de les traiter vraiment de façon différenciée.
Justine Atlan répondait à Marie Bernardeau. L'inquiétude du Japon, les autorités nippones estiment que les manœuvres militaires de la Chine au large de ses côtes pourraient sérieusement affecter sa sécurité nationale. Le gouvernement a publié ce matin son livre blanc annuel. Il est consacré à la défense de son territoire. Le document évoque plusieurs manœuvres maritimes militaires et des survols d'avions de combat. Des affrontements meurtriers entre Druzes et Bédouins dans le sud de la Syrie ont poussé le nouveau régime de Damas à intervenir militairement. Des troupes ont donc été envoyées sur place pour tenter de ramener le calme dans la ville de Souaïda. Mais les combattants druzes n'ont pas immédiatement déposé les armes, bien au contraire. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
Vous êtes notre correspondante dans la région. Sur place, les violences se sont poursuivies ce matin. Difficile de savoir si l'annonce d'un cessez-le-feu total, annonce du ministre de la Défense, est bien entrée en vigueur.
Oui, en effet, la situation reste assez confuse sur place. Les forces de sécurité syriennes ont en fait campé toute la nuit aux abords de la ville de Souaïda, après avoir pris plusieurs villages hier. Des négociations se sont engagées avec les notables druzes. Négociations compliquées car les différentes factions druzes sont divisées. Certaines refusent de rendre les armes par la force. D'autres ont appelé à la mobilisation générale contre les forces de Damas, quand un troisième courant est lui partisan de la négociation avec les nouvelles autorités. C'est ce dernier qui semble s'être imposé puisqu'un accord de cessez-le-feu total a en effet été annoncé ce matin par Damas. Il a permis l'entrée des troupes syriennes dans la ville. Peu après, des combats ont éclaté, mais localisés, et un calme précaire semble revenu. Ce qui est sûr, Olivier, c'est que l'intense déploiement de forces syriennes a semé la panique dans la population. Des milliers de civils dans ces villages, des villages environnants ont fui pour se réfugier à Souaïda. Depuis hier, il y a eu des scènes de pillage et de chaos. En fait, l'enjeu est très élevé pour le pouvoir qui tente d'imposer l'autorité centrale de Damas dans ce pays fracturé, que ce soit en pays druze ou kurde ou encore alaouite. Le désarmement des différentes milices est un point clé. Mais pour compliquer encore la donne, l'aviation israélienne a de nouveau bombardé les abords de Souaïda ce matin. C'est un avertissement aux forces syriennes. L'État hébreu se pose en protecteur des druzes dans la région. L'implication d'Israël, accusée par Damas d'instrumentaliser cette question druze pour étendre son influence en Syrie, pose un nouveau défi.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul. L'Europe va-t-elle sanctionner le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Les chefs de la diplomatie de l'UE se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour évoquer cette possibilité. Présenté il y a quelques semaines, un rapport de la Commission estime qu'Israël ne respecte pas les droits de l'homme dans la bande de Gaza. L'État hébreu est accusé de violer sur ce point l'article 2 de l'accord d'association passé avec l'Union européenne. De son côté, Israël dit ne pas croire à ces sanctions. Le pays fait d'ailleurs tout pour les éviter. Thibault Lefebvre nous appelle de Jérusalem.
L'Europe peut frapper fort en suspendant dans tous ses volets économiques, culturels ou politiques l'accord d'association avec l'État hébreu. C'est hautement improbable étant donné que ce type de décision nécessite l'unanimité des 27 et que des pays comme l'Allemagne et l'Italie y sont clairement opposés. Deuxième possibilité, des mesures ciblées qui pourraient concerner les échanges universitaires ou le financement de la recherche. Dans le viseur, le programme Horizon Europe, près d'1 milliard d'euros investis depuis près de 5 ans dans la science et les start-up de l'État hébreu. Shlomi Kaufman dirige la branche internationale de l'autorité de l'innovation israélienne.
Le but de ce programme, c'est d'améliorer la science. Il a toujours été neutre et n'a jamais été influencé par des considérations politiques. Et ça doit rester comme ça. On doit rester concentré sur la recherche, l'innovation et la technologie.
La troisième option, c'est l'absence de sanctions, parce qu'en échange, Israël a promis à l'Union européenne d'améliorer les conditions d'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Un point de passage a été ouvert au nord, et la semaine dernière, pour la première fois depuis 130 jours, du fioul est entré dans l'enclave.
Thibault Lefebvre à Jérusalem. Des armes anti-aériennes pour protéger les Ukrainiens et la menace de droits de douane exorbitants pour faire pression sur les Russes. Spécialiste des volte-face, Donald Trump espère parvenir à ses fins d'ici 50 jours. C'est en tout cas l'ultimatum lancé à Vladimir Poutine. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Le chef du Kremlin s'est lui donné 2 mois pour conforter ses positions militaires en Ukraine. Les dates coïncident quasiment, ce qui est assez troublant pour le moment.
Oui, effectivement, et on peut se demander aussi s'il s'agit vraiment d'un tournant radical de Donald Trump, et ça, c'est pas si sûr. Concernant les livraisons d'armes, sa posture est claire, ce sont les alliés européens de l'Ukraine qui vont donner les leurs, en les prélevant sur les stocks européens de l'OTAN, avant d'acheter les nouvelles armes américaines en remplacement. Bref, il s'agit de business, et ça ne coûtera rien aux contribuables américains, dit Donald Trump. Quelles armes précisément et quoi? Ça, c'est encore une autre question. Le Pentagone dit que les détails de l'accord sont encore en cours d'élaboration. Et puis, il y a effectivement cette menace de droits de douane de 100% aux partenaires commerciaux de la Russie. Si Vladimir Poutine n'accepte pas un cessez-le-feu dans les 50 jours, alors d'une part, Donald Trump fixe régulièrement de grandes échéances qu'il ne tient pas. Ensuite, cette menace, eh bien, elle vise principalement la Chine, partenaire commercial majeur de la Russie. Et pas sûr que Donald Trump soit prêt à une nouvelle confrontation avec la deuxième économie mondiale. Au sujet de l'Ukraine, un pays dont il dit depuis longtemps que son sort n'est pas vital pour les États-Unis. Surtout, vous l'avez dit, cette marge de manœuvre donne en effet à Vladimir Poutine ce qu'il veut, ses 50 jours pour consolider ses positions en Ukraine. Cette échéance, elle arrive en septembre. un mois avant l'annonce du prix Nobel de la paix, que Donald Trump veut à tout prix arracher. 50 jours de marche, donc, pour Vladimir Poutine, pour avancer encore, avant de donner peut-être à Donald Trump ce cessez-le-feu dont il aurait besoin pour le prix Nobel.
Merci beaucoup, Claude Guibal. On apprend ce matin, en fin de matinée, le décès de l'historien Jean-Pierre Azéma, à l'âge de 87 ans. Il a notamment collaboré à la revue Histoire. Il fut aussi le scénariste de Claude Chabrol pour son fameux documentaire L'œil de Vichy. Jean-Pierre Azéma était l'un des meilleurs spécialistes de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Davantage d'éclaircies au fil des heures, le soleil sera généreux sur le sud. Les nuages restent toutefois menaçants avec un risque d'orage en montagne. Quelques averses sont attendues sur les côtes de la Manche. Les températures iront cet après-midi de 20 à 30 degrés. C'est la fin de ce journal réalisé avec Nicolas Pommet.